Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
À la une de l'actualité de ce mardi 16 novembre, une partie des territoires du Nord confinés pour seulement 2 cas de Covid-19. De l'autre côté du globe, en Europe, la reprise épidémique se confirme. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants bloqués aux portes de l'Europe, victimes d'une dramatique crise migratoire et diplomatique entre la Pologne et la Biélorussie. L'Union européenne annonce des sanctions contre Minsk, les précisions dans ce journal. Et enfin, du sport avec des nouvelles bonnes, heureusement, de la joueuse de tennis chinoise portée disparue après avoir accusé un ancien dirigeant de viol. On commence ce journal dans les territoires du Nord en Australie et les habitants des régions de Katherine et de Robinson River se sont réveillés ce matin confinés. Un lockdown express de 3 jours décrété suite à 2 cas positifs de coronavirus dans une communauté aborigène. Les 2 personnes infectées vivent ensemble. Il s'agit d'un homme de 43 ans et d'une jeune femme de 30 ans. On écoute le Premier ministre de Northern Territory, Michael Gunner.
You have done this before, you have smashed it before, I know you'll smash it again. The 5 reasons are medical treatment, including getting a COVID test or getting vaccinated. For essential goods and services like groceries and medicines. For work that is considered essential and can't be done at home. For 1 hour of exercise a day of one other person or the people that you live with and for no further than 5 kilometres from your home. And finally, to provide care and support to a family member or person who cannot support themselves. This includes separated families sharing the care of children.
Après des dizaines d'heures de négociations, le gouvernement du Victoria a accepté d'amender légèrement son projet de loi sur la pandémie. Le Premier ministre Daniel Andrews répond aux très nombreuses critiques et assure que le texte contient des garde-fous. Un texte pourtant qui étend ses prérogatives, lui donnant le pouvoir de déclarer une pandémie et de prendre directement des ordonnances de santé publique. On écoute le Premier ministre du Victoria.
The bill is filled with safeguards, oversight mechanisms that far exceed any other state, I think, perhaps any other country. We see, again, we're back to just political games. Like, you've got the opposition who are kind of wanting to have it a bit both ways. You know, standing with people who are anti-vaxxers, sharing a podium with people who are anti-science, anti-vaccination.
C'était Daniel Andrews qui dénonce donc un jeu politique de la part de l'opposition. Le Premier ministre du Victoria qui peut compter sur le soutien de son ministre de la Santé, Martin Follet, écoutez.
Not unusual to have amendments moved in the Legislative Council. This has been with a lot of attention, but this has been a relatively normal legislative process. We're confident that the package we have put together will both secure the rights of Victorians, whilst more importantly, keeping Victorians safe in any future pandemic.
Martin Follet, ministre de la Santé du Victoria. Et sachez que de nouvelles manifestations contre ce projet de loi sont prévues devant le Parlement à Melbourne. Restons sur la thématique du Covid. On fait le point sur les 2 États les plus impactés par les infections. Le Victoria, on en parlait à l'instant, 797 nouveaux cas ces dernières 24 heures, 8 décès. Un peu plus de 87% de la population est désormais totalement vaccinée. La barre des 90% devrait être atteinte dans les prochains jours. Autre État, la Nouvelle-Galles du Sud, bien sûr. Les cas continuent de diminuer, c'est une bonne nouvelle. 212 infections en une journée, 2 personnes sont décédées. Plus de 91% des 16 ans et plus ont reçu leurs 2 doses de vaccin. Toujours à propos de la situation épidémique, on traverse le globe, direction l'Europe. Avec l'hiver qui arrive, le nombre de cas repart à la hausse. L'Autriche a pris une mesure très controversée en décrétant un nouveau confinement, mais seulement pour les personnes non vaccinées. De son côté, la France n'est pas épargnée non plus. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants, augmente de près de 40% par semaine. Il est repassé au-dessus des 100 depuis hier, ce qui n'était pas arrivé depuis la fin de l'été. Ce taux d'incidence est plus élevé chez les 30-39 ans. Le gouvernement français a annoncé le retour du masque obligatoire à l'école sur l'ensemble du territoire. Et on reste en Europe, on parle à présent de cette dramatique crise migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants amassés dans une forêt entourée de fils barbelés, surveillés par la police, par les gardes frontières, par des soldats, affrontant des températures hivernales. Déjà plus de 10 migrants sont décédés, un chiffre qui sans surprise va augmenter dans les prochains jours. La plupart viennent d'Irak et rêvent d'une vie meilleure en Europe. L'Union européenne accuse la Biélorussie d'avoir orchestré cette crise en organisant volontairement l'arrivée de ces milliers de personnes à la frontière. De son côté, la Pologne a annoncé la construction d'un mur anti-migrants dans les prochaines semaines. La Pologne qui refuse l'aide de Frontex, l'agence de surveillance des frontières de l'Union européenne, dont le siège est pourtant à Varsovie. Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'UE, a annoncé préparer des sanctions contre Minsk et contre tous ceux qui contribuent à cet afflux de migrants.
We will be able to sanction more people according with their activities on the organization of these flights of people from several countries going to the Belarus and from there to the European Union member states borders. We agreed to an adoption, a new package, it would be the fifth one, a new package on sanctions which will be finalized on the coming days. The package has been politically adopted.
C'était Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne. Angela Merkel s'est entretenue avec le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, qui affirme travailler activement à l'évacuation des migrants bloqués à la frontière. Emmanuel Macron, le président français, lui, a parlé avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Les deux dirigeants sont convenus de l'intérêt d'une désescalade. Pourtant, il semble que pour la Russie, cette crise migratoire soit une aubaine diplomatique. Explication de Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po Paris.
Pour la Russie, s'abstenir d'agir, c'est déjà servir ses intérêts dans cette crise. C'est la Biélorussie de Loukachenko qui a décidé d'organiser cette crise migratoire pour répondre en fait aux sanctions que l'Union européenne avait prises depuis les élections frauduleuses d'août 2020. La Russie aujourd'hui se donne le rôle de chevalier blanc qui va trouver une solution entre les Européens inquiétés par cette crise migratoire et la Biélorussie qui est placée sous sanction et qui n'a plus pour soutien international que la Fédération de Russie en l'espèce. Et là, la Russie va essayer, tout en soufflant sur les braises, d'apparaître comme le pompier qui va résoudre la situation, à la différence de l'Union européenne. Et je pense que dans les médias russes, dans la semaine qui vient, la Russie sera présentée comme la seule faiseuse de paix, alors que l'Union européenne apparaîtra une nouvelle fois comme celle qui n'est pas capable de résoudre ses problèmes de souveraineté et de défense de ses frontières.
Cyril Brett, maître de conférence à Sciences Po Paris. Direction le Royaume-Uni à présent, où le niveau de la menace terroriste est désormais considéré comme grave par les autorités. Hier, un taxi a explosé devant un hôpital de Liverpool, au nord de l'Angleterre. La police dénonce un acte terroriste, tout en précisant que les motivations restent encore à déterminer. On écoute le Premier ministre britannique, Boris Johnson.
But it is a stark reminder of the need for us all to remain utterly vigilant and the independent Joint Terrorism Analysis Centre, JTAC, are today raising the UK's threat level from substantial to severe, meaning an attack is highly likely. But what yesterday showed above all is that the British people will never be cowed by terrorism. We will never give in to those who seek to divide us with senseless acts of violence.
Blessé lors de l'explosion, le chauffeur de taxi a été qualifié de héros. Retour en France et le couple Fillon à nouveau devant les juges. Au premier jour de leur procès, François et Pénélope Fillon ont expliqué pourquoi ils avaient décidé de faire appel du jugement rendu en première instance. « Je ne me reconnais pas dans le jugement, je me suis sentie ridiculisée, parfois humiliée, j'étais tétanisée au point de ne pas pouvoir m'exprimer comme je l'aurais voulu. » Pénélope Fillon, 66 ans, espère cette fois convaincre les juges de son innocence. Pour rappel, les époux Fillon avaient été jugés en mars 2020 pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. Pénélope Fillon est soupçonnée d'avoir occupé un emploi fictif de collaboratrice aux côtés de son mari lorsqu'il était député. En première instance, l'ancien Premier ministre a été condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Son épouse à 3 ans de prison avec sursis. On écoute Maître Antonin Lévy, avocat de François Fillon.
Depuis le début de ce dossier, on avait le sentiment qu'il y avait quelque chose, je vais le dire très simplement, qui ne tournait pas rond. Voilà, quelque chose qui n'était pas comme n'importe quel autre dossier et qui n'était pas traité comme tout autre justiciable. Je n'en prendrai qu'un seul exemple. On a vu, dans une commission d'enquête parlementaire, au moment de notre délibéré en première instance, que le juge d'instruction qui avait été choisi pour instruire ce dossier avait été choisi à dessein. C'est-à-dire que la personne qui l'a désigné avait choisi le juge d'instruction dans un but spécifique. Il l'a lui-même reconnu. Quel est ce but? Ça, c'est ce qui demeure encore un mystère. Le président a fourni une explication et il n'a pas dit la vérité en fournissant cette explication devant des parlementaires et en expliquant sa vision des choses. À tel point qu'il a été obligé lui-même de se corriger le lendemain et de revenir en s'en mêlant les pinceaux. Et on sait aujourd'hui, de manière certaine, que le juge d'instruction choisi pour mettre en examen François Fillon en pleine campagne présidentielle et en quelques jours à compter de sa désignation avait été désigné à dessein.
14 millions d'euros pour lutter contre la prostitution des mineurs. En France, le gouvernement s'attaque à ce fléau qui concerne entre 7 000 et 10 000 personnes, majoritairement des jeunes filles entre 15 et 17 ans. Une annonce saluée par Armelle Le Bigomaco, présidente de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Cet argent doit servir à la prévention puisque pour elle, s'il est très facile de rentrer dans le milieu de la prostitution, il est encore bien trop difficile d'en sortir. On l'écoute.
Pour supporter ces passes répétitives, vous imaginez bien qu'elles ont besoin de se faire aider. Donc, il y a l'alcool, il y a la drogue et il y a la prostitution, qui est une espèce de transcendation de leur corps, c'est-à-dire elles se dédoublent complètement et ça procure quand même, on peut le dire, hein, une certaine, pas jouissance au sens sexuel du terme, mais un certain sentiment de bien-être vers lequel elles retournent, sous, toujours en prise de la drogue, de l'alcool. Donc elles sont dédoublées, ces gamines. Et du coup, quand elles reviennent à un quotidien, eh ben, l'école, les parents, c'est un peu fade par rapport à ce qu'elles ont vécu. Donc c'est pour ça que j'emploie à terme ce mot terrible, hein, d'addiction, mais pour qu'on comprenne que quand on est allé jusqu'au bout de cette histoire, qui sont des histoires glauques, des histoires violentes, qui leur font vivre des choses incroyables, du coup, le quotidien, je le répète, paraît un peu flébard. Et à ces âges-là, où on est tellement fragile, elles replongent, elles y retournent.
Armelle Le Bigomaco, présidente de l'association Agir contre la prostitution des enfants. Et du sport à présent, on vous donne des nouvelles de la joueuse de tennis chinoise Peng Shuai. Elle serait en sécurité selon la WTA, l'association du tennis féminin. La joueuse a disparu depuis début novembre après avoir proféré des accusations d'agression sexuelle à l'encontre d'un ancien vice-premier ministre chinois. La WTA appelle Pékin à ouvrir une enquête sérieuse. En Chine, les mouvements féministes affichent leur soutien à Peng Shuai. La correspondance de Stéphane Lagarde.
De grands caractères bleus, blancs et jaunes comme des balles de tennis sont apparus sur les murs, les ponts de béton des grandes villes chinoises cette nuit. Peng Shuai Jiayo, Peng Shuai, on est avec toi, ou encore on espère que tu es en sécurité. Impossible de dire où ont eu lieu ces projections ni à quelle fréquence. Les photos réalisées par le mouvement de libération des féministes chinoises ont été publiées sur Twitter, inaccessibles sans VPN en Chine et donc non nettoyées par les censeurs. Car pour le reste, tout ce qui concerne la joueuse a disparu et les militantes n'ont aucune nouvelle d'elle depuis ses accusations début novembre à l'encontre de Zhang Gaoli, ancien membre du puissant comité central du PC chinois. L'une des militantes du mouvement joint ce matin sur messagerie cryptée.
Il est très difficile et risqué de se mobiliser. Tout est immédiatement censuré. Voilà pourquoi nous avons eu l'idée de ces projections éphémères. Nous voulons lui apporter notre soutien. Nous refusons la censure. Nous ne voulons pas que Peng Shuai soit effacé de la mémoire collective. Le monde du tennis parle de sa sécurité. Il y a eu ce communiqué demandant une enquête transparente, mais ici même, cela est censuré.
Et ce sont les joueurs et les joueuses qui ont pris la censure au rebond en lançant le hashtag Where is Peng Shuai ou est Peng Shuai, silence de plomb en revanche du côté de la Fédération chinoise de tennis.
Le reste de l'actualité sportive, c'est dans un instant avec le journal des sports présenté par Jean-Noël Ducasse. Mais avant, un coup d'œil sur votre météo. Il fera nuageux à Perth, 24 degrés. La même chose à Adélaïde, 19 degrés, 16 degrés à Melbourne, il va pleuvoir, 15 degrés à Hobart, 17 à Canberra. Comptez 21 degrés à Sydney, 30 à Brisbane, 33 à Cairns avec un risque de pluie. Et il fera grand soleil, 37 degrés à Darwin. Il est 13h14, on vous rappelle les principaux titres de l'actualité de ce mardi 16 novembre. La reprise épidémique qui se confirme en Europe. Pour la première fois depuis septembre, le taux d'incidence en France repasse au-dessus des 100. La crise migratoire qui se détériore chaque jour à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. En France, un plan de 14 millions d'euros pour lutter contre la prostitution des mineurs. Et enfin, des bonnes nouvelles de la joueuse de tennis chinoise disparue depuis début novembre.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.